Bonjour à tous, bienvenue à cette table ronde sur l'Étoile du Sud. Alors on accueille deux spécialistes de Jules Verne et de Pascal Grousset, Agnès Marceauteau qui est conservatrice et responsable des collections et du musée Jules Verne de la ville de Nantes, et Xavier Noël qui est président de la société Grousset Laurie Daril. Donc je pense pour certains d'entre vous allez découvrir aujourd'hui qui c'est pas lui c'est Jules Verne, et administrateur de la société Jules Verne. Alors pour introduire le débat, donc peu de gens le savent, peut-être que vous le savez dans le public, mais deux romans signés par Jules Verne sont en fait des réécritures de romans qui ont été proposés par un autre à Hetzel, l'éditeur de Jules Verne. Ces deux romans, c'est Les 500 millions de la Bégomme et L'Étoile du Sud, dont on va parler aujourd'hui. Et on en parle aujourd'hui particulièrement parce que la ville de Nantes vient d'acquérir le manuscrit. D'ailleurs, vous le voyez là. Enfin, vous en voyez quelques pages là. Vient d'acquérir le manuscrit original, donc de Pascal Grousset, de L'Étoile du Sud. Et donc, avant de parler de l'auteur original et de L'Étoile du Sud en elle-même, j'aimerais poser une question peut-être un peu provocative. Est-ce qu'on peut considérer à travers L'Étoile du Sud et Les 500 millions de la Bégomme que pour deux de ses œuvres au moins, Jules Verne avait une espèce de nègre? Je pose le mot. Qui veut? Peut-être.
Bon, alors, je démarre. Eh bien, pas du tout. Voilà, donc on ne peut... Non, bien sûr, c'est pas le juste terme. Hein. Donc Pascal Grousset n'était pas le nègre de Jules Verne, tout simplement parce que la relation entre les deux auteurs n'est pas celle-ci. Mais donc je racontais l'histoire, donc voilà, je dis non.
Non, Agnès, vous êtes d'accord avec l'assertion de...
Oui, je pense que la notion de nègre ne s'applique pas en l'occurrence. Voilà, c'est-à-dire que... C'est une rencontre, ça s'inscrit dans ce qu'étaient les conditions de production de l'œuvre de Jules Verne, puisque en fait, il travaillait dans un cadre éditorial, sinon contraint, du moins fortement défini par Hetzel. Et d'autre part, on sait maintenant, depuis qu'on connaît véritablement la manière dont l'œuvre a été produite, qu'il y a des interventions de son éditeur, en l'occurrence la collaboration avec Grousset, et puis il y aura des contributions de son fils Michel. Donc ça fait partie de l'approche qu'on doit avoir de l'œuvre de Jules Verne. Le terme de nègre, effectivement, ne s'applique pas.
Alors peut-être avant de présenter Pascal Grousset, si je comprends bien, donc Jules Verne a accepté en quelque sorte d'emprunter deux manuscrits au moins à quelqu'un. Une des composantes fortes de son acceptation, c'est qu'il avait des contraintes éditoriales très fortes. Il devait quoi, deux ou trois romans
deux titres,
par an.
Oui, voilà. Alors effectivement, c'est une des raisons. Et on peut penser effectivement que dans les deux cas, il était un peu en mal de copie. Mm-hmm. Et que Hetzel lui a, en quelque sorte, on pourrait dire, procuré, entre guillemets, une béquille. Mm-hmm. Mais il faut voir aussi la complémentarité qu'il y a entre l'œuvre des deux hommes. Et aussi, quel est le point de vue de Grousset? C'est-à-dire, ce n'est pas non plus par hasard si les textes de Grousset se trouvent remaniés et publiés sous le nom de Jules Verne.
Alors, venons-en à Grousset, justement. Donc, Xavier, vous êtes, je pense, le spécialiste, le plus grand spécialiste de Pascal Grousset. Vous êtes l'auteur de cette biographie. On voit parfois la couverture passer aussi à l'écran. Excellente biographie. Vous voyez, c'est un pavé, hein, tout y est, ou presque. Enfin, il y a beaucoup de choses à dire sur Pascal Grousset. Est-ce que vous pouvez nous présenter le personnage? Alors, on pourrait y passer deux heures, hein, donc passez-y
un peu moins. Donc, je fais un portrait en deux minutes. Oui. Donc, effectivement, Pascal Grousset, c'est un personnage foisonnant. Donc, né en 1844, décédé en 1909. Donc, en fait, il apparaît une première fois sur la scène publique, on peut dire, parce qu'il a été lié à la fameuse affaire Victor Noir. Donc, en fait, ça, c'est sous Napoléon III. Il y a un cousin de Napoléon III qui a assassiné un de ses amis, donc Victor Noir. Et c'était suite à une provocation en duel menée par Pascal Grousset. Donc, Grousset est un Corse, hein, par sa mère. Et donc, il est anti-bonapartiste. Donc, ça veut dire qu'il a, pendant les années 1868 à 70, mené vraiment une campagne anti-bonapartiste. Après ça, donc cette affaire Victor Noir, cet assassinat, a déclenché en fait une immense manifestation à Paris, rassemblant peut-être 200 000 personnes, et qui a été en fait une première insurrection, une pré-insurrection à la Commune de Paris, dont il a été un des principaux responsables. Donc en 1871, pendant ces quelques mois de la Commune de Paris, de cette insurrection, qui était une insurrection patriote et sociale, on va dire, eh bien, il a été délégué aux relations extérieures, donc une sorte de ministre des Affaires étrangères. Après ça, eh bien, il est arrêté. Donc, il est emprisonné. Il passe un an au Fort Boyard, puis déporté en Nouvelle-Calédonie. Donc, après un voyage à fond de cale de 5 mois, il passe 2 mois en Nouvelle-Calédonie et il s'évade. Donc, une évasion absolument rocambolesque. Rien que l'évasion, c'est évidemment un sujet de roman qui a fait beaucoup de bruit, hein, qui a fait du bruit. Ça a été une planétaire, en fait, comme retentissement. Et ça a d'ailleurs été immortalisé par deux tableaux de Manet. Et donc après ça, eh bien, il fait un peu le tour du monde et il arrive en Angleterre, à Londres. Il est en exil, donc il passe 7 ans à Londres et en Angleterre. Et c'est là en fait où il commence finalement son œuvre journalistique et littéraire et qu'il entre en relation avec Hetzel. Alors cette relation avec Hetzel, donc l'éditeur de Jules Verne, est évidemment extrêmement intéressante parce qu'il faut imaginer qu'il est dans le besoin financier, que du fait, à cause de cette Commune de Paris, de son rôle, eh bien, sa famille s'est retrouvée sans ressources. En plus, son père et sa mère décèdent peu après. Et donc, il est en quelque sorte responsable de ses sœurs et frères. Et donc, il cherche à tout prix, évidemment, à gagner de l'argent, en même temps qu'il a une vraie volonté de faire une carrière littéraire. Et donc, c'est à partir de là qu'il envoie des manuscrits à Hetzel. Alors, le premier manuscrit, ce n'est pas un manuscrit de science-fiction ou d'aventure. C'est en fait un titre qui s'appelle « La vie de collège en Angleterre ». Donc, Hetzel met de côté, qui sera publié plus tard, hein, quelques années plus tard, sous le nom de André Laurie. Ce sera le premier titre d'une longue série sur la vie de collège dans tous les pays, une espèce d'encyclopédie pédagogique qui servira d'ailleurs de base à la réflexion sur tous les débats de l'éducation de la Troisième République. Et puis ensuite, il y a ces fameux romans d'aventure. Alors la vie de Pascal Grousset continue après. Les communards sont amnistiés en juillet 1881. Lui, il continue en fait à vivre en Angleterre, à revenir de temps en temps à Paris. Et là, il fera peu après une grande campagne en faveur du sport, hein, de la pédagogie du sport. Il dira en 1889, le mot est dit, les Jeux Olympiques, il faudra avoir les nôtres, donc évidemment avant Pierre de Coubertin. Donc il fera une vraie campagne en faveur de l'éducation au sport. Et après, il reprendra une carrière politique comme député de Paris, 4 mandats, radical socialiste, très impliqué sur les questions d'accès au savoir, d'ouverture des musées le soir, d'égalité hommes-femmes, etc., d'éducation des enfants. Et il fera, donc, comme c'est un utopiste, c'est vraiment un utopiste dans l'âme, pour l'exposition universelle de 1900, il proposera un grand projet qui sera en fait un puits vers le feu central terrestre, hein, donc en plein Paris, en pleine exposition, une espèce de tour Eiffel inversée. Donc ce projet n'a pas vu le jour, hein, ça se saurait, mais en tout cas il a été largement débattu. Et en fait on voit bien que là, la réalité, c'est aussi celle du roman, c'est le roman qui sort dans la réalité. Donc voilà en 2 mots qui était ce personnage.
Merci, vous voyez, un personnage assez fascinant. Et donc l'envoi des 2 manuscrits à Hetzel, donc des 2 manuscrits qui ont été repris par Jules Verne, c'est pendant son exil en Angleterre. Donc est-ce qu'on peut dire que le fait qu'il soit en exil, donc qu'il ne puisse pas rentrer en France, qu'il ne puisse pas éditer vraiment en France, a facilité le fait que, enfin, l'a poussé à laisser partir ses manuscrits et à les laisser utiliser par quelqu'un d'autre?
Oui, alors ça c'est évident que effectivement c'est cette situation d'exil, il était aux abois en quelque sorte, hein, qui effectivement l'a poussé à céder son manuscrit. Il n'y a pas que ça quand même, c'est qu'en effet, il y a quelque chose qui s'est passé effectivement en termes de compréhension, c'est-à-dire qu'effectivement, donc, comme l'a dit Agnès Marceteau, Jules Verne était donc au moment, donc avec ce texte des 500 millions de la Bégome, qui est le premier manuscrit finalement acheté par Hetzel pour qu'il soit réécrit par Jules Verne, effectivement, Jules Verne est en retard de copie. Et donc, voilà, donc c'est intéressant. Et Jules Verne, Pierre-Jules Hetzel, l'éditeur de Jules Verne, il a pressenti qu'il y avait quelque chose, une espèce de proximité entre Verne et puis Laurie, hein, qui ne s'appelait pas encore Laurie d'ailleurs, qui ne s'appelait pas encore André Laurie. Parce que Pascal Grousset, dans toute sa correspondance avec Pierre-Jules Hetzel, signait Philippe Daril, hein, parce qu'il se cachait. Et donc ensuite, pour publier, il a choisi ce pseudonyme d'André Laurie. Et donc oui, c'est cette situation d'exil, mais c'est également certainement la compréhension de Pierre-Jules Hetzel d'une espèce de proximité que Jules Verne au départ d'ailleurs n'a pas bien comprise. Ça c'est quand même extrêmement intéressant Parce que donc, quand Hetzel... alors, ce qui se passe avec donc, ce premier manuscrit qui s'appelait L'héritage de Langevol, qui est donc devenu Les 500 millions de la Bégum, eh bien, d'abord, Hetzel dit à Philippe Daril, ben, il faudrait réécrire ce texte. Donc voilà, il le réécrit. C'est mieux. Donc il lui donne plein de conseils, toute une liste de conseils, comme il faisait beaucoup. Hein. Hetzel donnait beaucoup de conseils à ses écrivains. Et donc, cette deuxième version du manuscrit de L'héritage de Langevol ne donnait pas encore satisfaction. Donc à ce moment-là, eh bien, il achète le manuscrit pour qu'il soit réécrit par un autre écrivain, donc en l'occurrence Jules Verne. Et donc au départ, Jules Verne, donc Hetzel, quand il envoie le manuscrit à Verne, lui demande son avis. Et Jules Verne est très critique. Il dit oui, c'est mal écrit, etc. Et en fait, cette critique, elle est tout à fait intéressante. Et Hetzel lui fait remarquer, parce qu'au travers de cette critique, voilà, c'est que Jules Verne a senti qu'il y avait, comme s'il avait senti qu'il y avait une proximité avec son propre travail. Et que là, du coup, ça devenait quelque chose qui peut-être le dérangeait. Cette relation est extrêmement intéressante, cette proximité. Donc on a des indications d'ailleurs sur cette proximité, tout simplement parce qu'en fait, d'un côté, eh bien, il y a une correspondance très abondante entre Pierre-Jules Hetzel et Jules Verne, et de l'autre côté, il y a une correspondance entre Philippe Daril et Pierre-Jules Hetzel. En fait, il y a une relation triangulaire, mais il manque d'ailleurs un côté du triangle. Hein, il n'y a pas cette relation directe Jules Verne-Pascal Grousset.
Oui, moi, j'ai dans un ouvrage qui s'appelle Un an dans les airs, j'ai mis Jules Verne et Pascal Grousset pendant un an au même endroit. Mais vous m'avez dit qu'en fait, il n'y avait aucune preuve formelle qu'ils se soient même jamais rencontrés. Ils correspondaient évidemment avec leur éditeur, ça c'est, on en a les traces très claires. Il n'y a aucune correspondance directe entre les deux, ou à part une lettre, vous m'aviez dit qu'il
y a... Oui, c'est ça. À un moment, il y a une lettre, oui, c'est ça. C'était au moment de la diffusion du Rayon Vert de Jules Verne en Angleterre. Donc. Philippe Daril écrit à la fois à Hetzel et à Jules Verne pour lui dire que voilà, il peut s'occuper d'une diffusion auprès de Samson and Lowe.
Bon, voilà, c'est complètement tout. Anecdotique. Et il n'y a aucune preuve formelle qu'ils se soient rencontrés.
Non, ben, j'en ai pas encore trouvé. Ouais. Pourtant, j'ai cherché. Ça fait 30 ans que je cherche. Je n'avais pas trouvé.
Pour revenir sur ce que vous disiez, moi, en lisant à travers votre livre, les correspondances entre donc, cette correspondance triangulaire. On a l'impression que sur les trois romans, on va aussi parler, il y en a en fait un troisième que vous avez peut-être vu à l'écran, qui s'appelle L'épave du Cynthia, qui est finalement co-signé par les deux. Il y a vraiment les deux auteurs, donc Verne, Laurie, dans cet ordre-là. Donc à travers ces trois romans qu'ils ont co-écrits ensemble dans une certaine mesure, on a l'impression qu'au fur et à mesure du temps, soit Pascal Grousset s'améliore, il bénéficie des commentaires de Hetzel et de Verne, et il s'améliore, soit Verne accepte mieux l'univers de Pascal Grousset. Est-ce que vous savez mettre un curseur entre ces deux propositions ou,
C'est pas tellement que je sais mettre un curseur, parce que Xavier le sait mieux, mais juste livrer un sentiment. Je pense quand même qu'il ne faut pas oublier que Grousset, c'est le cadet de Jules Verne, et que dans cette relation qu'il y a eu, je pense qu'il y a eu un accompagnement de la montée en puissance littéraire de Grousset. Et d'ailleurs, Grousset, il le dit, puisque dans une lettre qu'il écrit à Hetzel au moment de la publication des 500 millions de la Bégum, il dit que la lecture qu'il a eue des 500 millions... retravaillé, remanié par Jules Verne, lui a appris, et j'ai trouvé que cette formule était très, très parlante, l'art du succès plus que ne l'auraient fait des années et des années de travail solitaire. Donc ça, je crois que c'est quelque chose de très important à dire. Je crois que effectivement, Jules Verne, il adopte les textes, il les adapte, il aide Grousset à trouver sa voie d'homme de lettres. À titre personnel, si je puis me permettre de le dire devant Xavier, je pense que de toute façon, d'un point de vue littéraire, Grousset n'a jamais égalé Verne. Et que autant il y avait cette richesse de thématiques, et tant mieux pour Jules Verne, parce qu'effectivement, ça lui a peut-être donné de l'oxygène à un moment où il s'est soufflé. Mais pour ce qui est du travail de romancier, je pense effectivement que Grousset avait tout à apprendre de Verne. Et d'ailleurs, c'est sous la plume de Xavier que j'ai lu une expression qui me semble très très juste. Je ne crois pas que Grousset soit le nègre de Jules Verne, mais je pense qu'on peut dire que Jules Verne a été le réécrivain de Grousset, Et donc cette relation, effectivement, elle est de ce point de vue-là également très, très intéressante.
Tu veux rajouter quelque chose ?
Tout va bien.
Tu confirmes ?
Tout va.
D'accord. Alors venons-en peut-être au manuscrit lui-même, l'Étoile du Sud, donc qui vient de ressurgir en quelque sorte. Pourquoi il ressurgit aujourd'hui et pas il y a un certain temps ? Quelle est l'histoire de ce manuscrit depuis son envoi de Grousset à Hetzel ?
Alors c'est toujours la question, pourquoi est-ce que les manuscrits ressurgissent alors que lorsque l'on connaît la manière dont les choses se passent, c'est tout à fait naturel. Les manuscrits, ils ont leur cheminement. Il y a un travail très complémentaire qui doit se faire entre les chercheurs, les collectionneurs et les institutions. Et donc, grâce au travail de chacun, un jour, et on s'en félicite évidemment, les manuscrits entrent dans les collections publiques quand l'opportunité nous est offerte, en nous appuyant sur le travail justement des chercheurs. Donc rien de plus naturel. Voilà, il y a un côté contingent, mais ça n'est pas mystérieux.
Oui. Je crois que c'est même la découverte que Jules Verne avait eue, donc c'était inspiré de André Lauri, ça remonte déjà à quelques années, c'est 1966, c'est ça,
En fait, c'est Simone Vierne qui avait en effet... La correspondance entre Pierre-Jules Hetzel et puis Jules Verne et puis même d'autres auteurs avait été déposée à la Bibliothèque nationale. Et donc Simone Vierne, universitaire, chercheuse, donc avait lu cette correspondance. Et dans cette correspondance, effectivement, on apprend, en effet, ce secret qui avait été très très bien gardé. Hein. D'ailleurs, même contractuellement, évidemment, le secret de la filiation entre Jules Verne et André Lauri ne devait pas être révélé. Et donc voilà, le courrier Hetzel Jules Verne montrait ça, et puis le courrier évidemment Pascal Grousset et puis Pierre-Jules Hetzel montrait ça également. Donc c'est 1966, donc c'est connu depuis ce moment-là pour en effet les 500 millions de la Bégome et l'Étoile du Sud. Alors pour l'épave du Saint-Tien, donc troisième roman réécrit. Il faut bien voir ce que c'est, ce que ça veut dire aussi réécriture, hein, qu'est-ce que ça comprend, est-ce que c'est de l'adaptation, est-ce que c'est de l'adoption, enfin, il y a tout ça en même temps, est-ce que c'est du remaniement, est-ce que le texte initial est respecté par l'auteur second, tout ça ce sont des questions qui sont évidemment discutées et qui sont évidemment extrêmement intéressantes. D'ailleurs après, moi-même j'ai relu évidemment toute cette correspondance et ça a été l'occasion de découvrir, d'ailleurs il y avait un quatrième roman, Les Exilés de la Terre devait recevoir également la co-signature Jules Verne, André Lauri. Pierre-Jules Hetzel avait adoré ce roman foisonnant de Pascal Grousset. Et donc, il avait envisagé que ce soit, après l'épave du Saint-Tia, co-signé Jules Verne André Lauri, que ce soit également co-signé. En fait, après, il y a eu un certain nombre de circonstances et que là encore, Pierre-Jules Hetzel a demandé à Pascal Grousset d'améliorer son manuscrit. Mais là, c'était déjà tardivement, puisqu'on était en 1886, en fait, et puis, 85-86, Pierre-Jules Hetzel est décédé en mars 86. Le roman a été publié sous le seul nom d'André Lauri. Ça aurait pu se faire.
Et donc, qu'est-ce qu'on sait pour ces quatre romans de la réécriture de Verne ? Donc, je crois que pour les 500 millions de la Bégome, on n'a pas de manuscrit original ou que des fragments, c'est ça ?
Oui, donc, ce sont des fragments, oui.
Donc, il y a sa correspondance. Pour l'épave du Cynthia, par contre, en revanche, on a deux versions, c'est ça, je crois ?
Pour les 500 millions de la Bégome, donc là, il y a eu deux manuscrits successifs de Pascal Grousset, dont il ne reste que des fragments, en effet. Là, probablement, peut-on considérer ça comme perdu, sauf une chance inespérée, mais je n'ai jamais trouvé aucune piste que ça existe quelque part.
Il y a eu des miracles avec Jules Verne, Paris au XXe siècle, qui est ressorti en 96, je crois, c'est ça. Qui...
Oui. Donc on ne sait jamais. Hein. Dans cette correspondance, on a quelques indications sur ce qui s'est passé en matière de réécriture, ce qui a été changé, ce que Jules Verne a gardé, pas gardé. Bon. Pour l'épave du Saint-Tia, c'est très facile parce que le manuscrit original est tout simplement à la Bibliothèque nationale de France. Donc, j'avais comparé effectivement ce manuscrit avec le texte qui a été publié sous la double signature. Bon, c'est un travail long, c'est toujours un travail, ben voilà, c'est la recherche, c'est comme ça, hein, c'est un côté un peu astreignant. Et donc j'avais remarqué, j'avais compté 3000 à peu près différences. Hein. Mais en même temps, derrière ces 3000 différences, un très très grand respect en fait de Jules Verne à l'égard de l'œuvre originale. Il s'est exprimé d'ailleurs, Jules Verne, à ce sujet-là. Il avait ce souci de respecter l'œuvre initiale, donc d'en corriger des défauts, mais de ne pas la dénaturer. Ça, c'est évidemment un point essentiel et qui s'applique à l'ensemble des réécritures qui ont été faites. Alors là, du coup, avec l'Étoile du Sud, bah, c'est évidemment très, très intéressant parce que voilà, un nouveau manuscrit, donc un pré-texte qui va permettre, en effet, à la fois de voir finalement ce que Jules Verne a transformé et puis également de comprendre ce que ça a pu amener dans le processus d'apprentissage d'André Lory. Hein, parce que voilà, effectivement, André Lory, comme l'a très justement dit Agnès Marceteau, il a appris avec Jules Verne. Donc il a fait une carrière d'écrivain sous le nom d'André Lory, il a appris avec lui. Donc, et il lui a rendu hommage, en plus, un superbe hommage en 1905.
Ouais, donc avec l'Étoile du Sud, c'est la première fois. Parce que l'épave du Cynthia, il est co-signé par les deux, donc on peut imaginer qu'il a reçu l'aval des deux auteurs. Alors que les deux premiers, Lory n'a pas validé la version finale. Donc effectivement, c'est la première occasion de comparer ligne à ligne la version originale de Lory et Grousset avec la version finale adoptée par Verne. Alors est-ce que nous, on peut espérer un jour lire la première version ou peut-être une édition comparée des deux versions ou une étude ou quelque chose ou est-ce qu'il y a des perspectives d'avoir accès un jour à ce manuscrit en quelque sorte?
Alors de toute façon, déjà le principe, c'est bien qu'on ait accès au manuscrit. À Nantes, donc, on conserve déjà de nombreux manuscrits, hein, de nombreux avant-textes de l'œuvre de Jules Verne. Tous ceux qui sont précédemment entrés dans les collections ont toujours été numérisés et mis à disposition des chercheurs. Ce sera le cas pour ce manuscrit-là, évidemment. Et sur cette base, effectivement, il faut que les chercheurs s'en emparent. Et c'est ça qui permet ensuite d'imaginer évidemment de nombreuses éditions critiques qui peuvent être une édition de la version Pascal Grousset. Il existe bien, même si je ne sais pas si c'est si connu que ça, aujourd'hui dans la collection Folio Gallimard, des éditions, des versions Jules Verne, des romans qui ont été publiés après sa mort, après avoir été réécrits par Michel. Donc déjà, on a cette possibilité de lire les deux versions et d'ailleurs de gloser beaucoup sur quelle était la meilleure, laquelle je préfère, etc. Comme quoi, Jules Verne est une matière riche sur ce genre de questionnement. Très, très intéressant d'ailleurs sur le statut de l'écrivain, sur sa relation à l'éditeur, etc. Ça aussi, c'est une mine inépuisable d'études. On peut aussi très bien imaginer une publication où on aurait d'un côté la publication du manuscrit de Grousset et puis en face ce que Jules Verne en a fait, ce qu'il a remanié, ce qu'il a décidé de retirer. Parce qu'il a décidé de retirer des choses. Le manuscrit porte quand même un certain nombre d'annotations d'Hetzel, de l'éditeur. Donc effectivement, c'est une très très riche matière à étude. Et tout ça sera mis en œuvre avec l'entrée du manuscrit dans les collections de Nantes.
Vous parliez d'ajout et d'enlèvement. On sait, au moins en termes de nombre de chapitres, c'est quoi le...
Moi, je ne me souviens plus par cœur.
C'est 2 et plus... Plus 2, moins 6.
Non, plus 2, moins 4.
Plus 2, moins 4, c'est ça. Plus 2, moins 4. Donc plus 2 chapitres, moins 4 chapitres.
Il y a quelque chose qui est très intéressant aussi par rapport à ce qui a été retiré, parce qu'à un moment donné. Alors oui, je ne l'ai pas dit ça. Si, donc une fois que Jules Verne accepte de réécrire les manuscrits, parce qu'au départ, hein, premier manuscrit, il n'est pas très favorable. Donc finalement, il se met au travail. Et en fait, il met 3 semaines, donc il va très vite. Pour l'Étoile du Sud, c'est encore plus accéléré, parce qu'il dit, bah, pour me rendre compte, justement, par rapport à ce qui est supprimé, etc. Il dit, j'ai besoin des placards, comme on disait, c'est-à-dire les textes qui sont composés par l'imprimeur. Donc ça veut dire que dans la maison Hetzel, ben, on travaille même la nuit pour composer les placards pour Jules Verne, pour qu'il voit au fur et à mesure sa réécriture. Donc ça, c'est un point très important. Et à un moment donné, Hetzel lui dit de faire attention à ne pas trop supprimer. Parce qu'en fait, il y a ça aussi, ça, c'est très particulier. C'est le seul cas d'ailleurs dans toute l'œuvre de Jules Verne. c'est qu'en fait, donc, vous savez, Jules Verne, bah, c'est aussi beaucoup les illustrateurs. Les illustrateurs jouent un très grand rôle dans la façon dont on peut appréhender l'œuvre. Voilà, puis en plus, c'était quand même les grands illustrateurs de l'époque. Et donc, là, en fait, l'illustrateur pour L'Étoile du Sud, c'était Bennett. Il avait fait les illustrations à partir du manuscrit de Grousset et pas à partir du texte. C'est le seul cas. Et donc, ça veut dire que si Jules Verne supprimait des morceaux de texte, ça faisait perdre des illustrations. Et d'ailleurs, ça aussi, c'est un travail qu'il faudra qu'il soit mené. C'est que on voit, quand on regarde avec beaucoup d'attention les gravures, les illustrations, on voit qu'il y a des petites choses qui ne semblent pas exactement cohérentes. Voilà.
C'est dû à ça. Est-ce qu'on peut penser que dans ces deux romans, il y a une composante que Grousset a amenée à Verne qu'il n'avait pas vraiment? Et je pense peut-être à la composante très sociale. Dans Les 500 millions de la Bégum, c'est extrêmement présent. Dans Les 500 millions de la Bégum, on bâtit une espèce de société idéale de deux façons différentes, deux modèles qui s'affrontent. Et c'est une composante qu'on ne trouve pas chez Jules Verne, peut-être pas avant Lila Ellis qui vient beaucoup plus tard. Est-ce qu'on peut imaginer que Grousset a un petit peu lancé Verne sur ce genre de sujet auquel il n'était pas très attaché, je pense, avant? Il était beaucoup plus attaché au progrès scientifique, à la...
Oui, alors ça, c'est un point. Enfin, là, je pense qu'Agnès aussi peut apporter plein d'éléments de réponse. Mais en fait, ce qu'on peut dire, c'est que... alors, Jules Verne, en fait, donc, même si Jules Verne n'a pas été un militant comme Pascal Grousset, il avait évidemment une compréhension d'un certain nombre de faits de société et dans toutes les parties du monde en plus. Donc des choses qui ont été très largement analysées par un spécialiste de Jules Verne qui s'appelait Jean Chesneau. Et donc c'est la lecture politique de Jules Verne. Et donc il y a aussi une progression, c'est-à-dire qu'au cours d'une vie, et ça a été le cas de Jules Verne, c'est-à-dire qu'il y a aussi une évolution de la perception d'un certain nombre d'éléments de société. Et donc en effet, ça c'est également un pan de recherche qu'il s'agit de développer. C'est qu'est-ce que Pascal Grousset a pu amener, en effet, comme éventuellement évolution chez Jules Verne.
Oui, en fait, la grande différence entre Grousset et Jules Verne, et ça n'est pas une petite différence, c'est que Grousset est un homme engagé, alors que Jules Verne était tout sauf un homme engagé. Mais on a pu écrire que Jules Verne était un révolutionnaire souterrain, et je pense que c'est vrai. Voilà. Donc, il y avait cette affinité entre les deux. Donc, la dimension sociale, effectivement, elle est peut-être plus marquée chez Grousset, mais contrairement à ce que l'on pourrait croire, elle ne pouvait pas heurter Jules Verne, parce qu'il avait lui-même une conscience très, très forte, en tout cas, de l'injustice qui pouvait s'exprimer en termes sociaux, qui pouvait s'exprimer en termes politiques. Jules Verne était certainement plus sensible à l'injustice sociale, enfin pas à l'injustice politique, pardonnez-moi, dans ce qu'on appelait au XIXe siècle le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, par exemple. Il était déjà de lui-même très sensible à ces questions-là. Il les avait déjà traitées en amont. En revanche, moi, il y a une question que je me pose, mais là, c'est en forme d'interrogation. Les 500 millions de la Bégum, il y a une dimension sociale, il y a une dimension utopique très intéressante, la comparaison entre ces deux villes, Stalstadt et puis Franceville, mais il y a aussi une autre dimension qui est finalement une dimension extrêmement nationaliste, parce que en fait, c'est une forme de reflet de l'opposition de la France et de la Prusse après 70. Je ne suis pas sûre que Jules Verne serait allé tout seul sur ce terrain-là.
Il fallait un communard pour...
Il fallait un communard, mais je pense aussi que Jules Verne n'était pas si passionné que ça par des idéaux nationalistes, parce que là, on entre dans des idéaux nationalistes. Donc, je pense que ça peut jouer sur les deux. En revanche, je pense... Je suis assez intimement persuadée que tout seul, Jules Verne n'aurait jamais écrit un roman aussi charmant que L'Étoile du Sud. Et quand je dis un roman aussi charmant, c'est un compliment. Il y a un charme dans ce roman, en particulier dans la relation entre Alice et puis Cyprien Méré. Il y a une humanité, une douceur dans leur relation sentimentale que Jules Verne ne savait pas exprimer. Voilà. Et là, je pense que c'est porté par Grousset qui nous l'a fait vivre. Et il y a aussi dans L'Étoile du Sud une humanité dans la relation entre les gens, en particulier avec le jeune Africain et puis le Chinois, qui certainement relève plus de la sensibilité de Grousset, parce que je pense que Jules Verne aurait été assez maladroit sur ces questions-là. Donc effectivement, il y a une forme d'imbrication. Mais ce que je voudrais dire aussi, et qui me paraît si important dans justement la mise à jour de cette relation entre Grousset et Jules Verne, c'est que si aujourd'hui l'œuvre de Jules Verne, elle continue à être si intéressante, si l'œuvre de Jules Verne, dans la globalité des voyages extraordinaires, elle nous parle si bien de ce qu'était le monde du 19e siècle, de ce qu'était notre monde en préparation, c'est grâce justement à tous ces apports. Et sans ça, on n'aurait certainement pas eu une œuvre aussi riche. Alors, peut-être que spontanément, on va se dire « Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce roman ? C'est pas du Jules Verne ?» Enfin, on entre dans des considérations qui sont finalement, quand on y réfléchit bien, assez morales. Est-ce que c'est du faux ? Est-ce que c'est du vrai ? Et je pense que c'est pas du tout ça, la question. Ce qui est important, c'est quelle est cette œuvre qui est aujourd'hui à notre disposition, et comprendre comment elle a été composée, c'est voir toute la richesse qu'elle représente encore aujourd'hui.
Alors, est-ce qu'on sait ce qu'il y avait dans les quatre chapitres supprimés ? Est-ce que ça va encore plus loin dans le côté doux, sentimental que vous suggériez ?
Alors, en fait, donc, dans ce qui a été supprimé, et là, en plus, c'est discuté entre Pascal Grousset et puis Pierre-Jules Hetzel, effectivement, sur la question des sentiments. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Pascal Grousset a été un passeur d'œuvres anglo-saxonnes. Donc, il a traduit un certain nombre d'auteurs. L'île au trésor, donc la première édition en français de l'île au trésor de Stevenson, donc c'est lui. Donc, est-ce que c'est une traduction fidèle ? Est-ce que c'est une adaptation ? Là aussi, c'est évidemment une question intéressante, parce que on n'a pas la même perception à ce moment-là qu'aujourd'hui de ce que doit être la fidélité des traductions. Vous savez qu'au fil des ans, il y a des œuvres qu'on retraduit tous les 30 ans, 40 ans, parce que voilà, on n'a pas la même appréhension. Et donc, lui, il a traduit un certain nombre d'auteurs. Il a vu aussi un certain nombre de choses. Donc, il avait une très, très bonne connaissance de la vie en Angleterre. Il avait aussi... ce qui a été très particulier aussi, c'est que, donc, arrivant en exil, eh bien, au lieu de... au tout début, évidemment, il s'est rapproché des autres proscrits de la commune, mais il s'en est éloigné. Donc, au début, il allait... voilà, par exemple, dîner, il retrouvait Jules Vallès. Enfin, bon. Et puis après, il a fait le choix de s'intégrer complètement à la vie anglaise. Donc ça veut dire que ça a été aussi un journaliste, un chroniqueur. Donc il a donné des chroniques pour le journal Le Temps. Il a d'ailleurs écrit des œuvres en anglais et en français sur la vie en Angleterre. C'est pour ça aussi qu'il a compris le système éducatif, il a compris que ça pouvait apporter quelque chose à la France. Et donc, dans ce rôle de passeur, il y avait aussi le fait qu'il avait une très bonne connaissance de la littérature anglo-saxonne. C'était un grand lecteur, c'était quelqu'un de très cultivé aussi. Ce qui les rapproche aussi, Jules Verne et Pascal Grousset, c'est que tous les deux, ce sont des esprits très cultivés qui ont un esprit de curiosité très important, alors qu'ils ne fonctionnent pas tout à fait de la même façon. Et donc, par exemple, sur la question des sentiments, on voit bien que la littérature sentimentale, en quelque sorte, c'est pas pareil en Angleterre et en France. Et donc, une discussion qu'il y a entre Pascal Grousset et Hetzel, c'est comment rendre compte de sentiments. Alors, Hetzel, il est un petit peu inquiet, il dit, mais voilà, tel que vous décrivez des sentiments, le sentiment amoureux en particulier, est-ce que ça va passer pour la jeunesse, etc. Et c'est pour ça, effectivement, qu'il y a cette espèce de douceur, parce que c'est pas la même littérature. Et ça veut dire aussi que dans l'œuvre de Pascal Grousset, eh bien, il y a cette influence-là. Il y a même des choses, il y a des passages qui se font d'un auteur à l'autre. C'est-à-dire qu'il y a même, par exemple, son premier roman d'aventure signé André Lory, donc le tout premier titre qui est signé André Lory, qui est le début d'une quinzaine de volumes. Donc ça s'appelle « L'héritier de Robinson ». L'héritier de Robinson, en fait, au départ, c'est une œuvre un peu énorme, en trois volumes, que Philippe Daril décide d'adapter, donc de traduire, et puis c'est réduit, transformé, puis finalement, ça devient l'héritier de Robinson, d'André Lory, et on perd l'auteur d'origine. Et ça veut dire qu'il y a ce passage-là aussi, ça veut dire qu'il y a des apports, en effet, qui se font de la littérature anglaise, parce qu'encore une fois, c'est sa situation particulière qui veut ça, et sa compréhension d'œuvres étrangères. Mais c'est aussi, il a un regard aussi, parce qu'il a beaucoup voyagé, il a observé des choses. Il est notamment très sensible, finalement, au rôle, à la place de la femme. C'est-à-dire que là aussi, il dit plein de choses dans sa correspondance et dans ses livres. C'est un militant. C'est-à-dire qu'il dit des choses, effectivement, que Jules Verne ne dit peut-être pas.
Et puis, c'est parce que justement, Alice a ce statut, si je puis dire, qui a cette relation qui s'établit entre eux. Voilà. Donc effectivement, ça, je pense qu'on n'aurait pas eu ça dans l'œuvre de Jules Verne si Pascal Grousset n'était pas passé par là. Alors, ce qu'il faut quand même aussi peut-être rappeler à cette occasion, c'est que Jules Verne était sans doute maladroit avec les choses du cœur. C'est d'ailleurs lui qui le dit. Mais il ne faut pas oublier que le contrat qui le lie avec Hetzel est contraignant, mais il n'est pas contraignant seulement d'Hetzel vers Jules Verne. C'est parce que Hetzel lui-même, il était dans un système où la censure n'était pas un vain mot et où une collection pour la jeunesse ne pouvait pas se permettre certaines choses. Donc il y a vraiment besoin de comprendre tout ce contexte pour lire entièrement l'œuvre.
Ben, merci à vous deux. Peut-être on peut voir si des gens ont des questions dans le public. N'hésitez pas. Je n'en vois... Si, il y en a une là-bas. Alors, je ne sais pas si on a le micro. Oui.
Oui, bonjour. Vous n'avez pas tout à fait répondu sur l'histoire du manuscrit. Vous avez un peu dit que c'était normal qu'il revienne, mais pourquoi est-ce qu'il a disparu de chez Hetzel et pourquoi est-ce qu'il a fallu le racheter?
Alors, ça, c'est peut-être là qu'il y a le mystère, mais effectivement, les éditeurs et les écrivains, ils gardent plus ou moins bien leurs manuscrits. Les manuscrits de Jules Verne lui-même, il y a par exemple un mystère qu'on n'expliquera jamais, c'est que pour Le Tour du Monde en 80 jours, qui n'est pas le moindre de ses romans, à Nantes, nous conservons la version ancienne, qui est d'ailleurs passionnante, parce que c'est le seul avant-texte de Jules Verne pour lequel on a ce qu'on peut appeler un canevas. Donc au niveau des procédés de création et d'écriture, c'est très intéressant. Mais la mise au net, elle est dans les archives Hetzel à la Bibliothèque nationale. On ne sait pas pourquoi. Voilà. Donc là, il y a effectivement une part de mystère. Ce que l'on sait quand même, c'est que lorsque Hetzel réceptionnait les manuscrits, il faisait procéder à des copies qui permettaient ensuite de travailler dessus. Donc ça peut expliquer que le manuscrit original n'ait pas été conservé avec le plus grand soin et qu'après il se retrouve effectivement allé d'un bouquiniste à un autre et qu'un jour un collectionneur puisse l'acheter.
Peut-être on peut préciser qu'effectivement c'est un particulier qui l'a vendu à la ville de Nantes.
Oui, bien sûr, un collectionneur, qui avait eu l'opportunité, parce que les collectionneurs font un travail très très important de recherche, sont à l'affût de toutes les opportunités et trouvent de ce fait des documents qui sont grâce à eux mis à jour.
Est-ce qu'il y aurait d'autres questions dans le public ?
Oui, il y avait une remarque intéressante sur la façon dont Jules Verne travaillait à partir d'un travail fait par les gens chez Hetzel. Et il corrigeait. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment se fait ce travail et peut-être éventuellement si on conserve ces travaux qui sont manifestement des réécritures permanentes autour du texte?
Alors justement, il y a quelque chose que nous ne conservons pas et c'est bien dommage. Ce sont les jeux d'épreuves. En fait, le seul jeu d'épreuves qu'on conserve, c'est un jeu d'épreuves pour... et tout à l'heure, tout de suite, j'ai une hésitation. C'est ou de la Terre à la Lune ou autour de la Lune. Je crois que c'est de la Terre à la Lune. Et en plus, c'est émouvant. On n'en conserve pas d'autres. Mais c'est un jeu d'épreuves sur lequel il y a quelques corrections de coquilles. Il y a fort peu de choses. Or, on sait, par le témoignage que Jules Verne en a lui-même donné... qu'il pouvait aller jusqu'à corriger 5 jeux d'épreuves. Et il disait lui-même qu'on ne pouvait pas se figurer l'évolution qu'il y avait entre le premier jeu d'épreuves et puis le texte publié. Donc on a conservé les manuscrits, tant mieux. Sur les manuscrits, il y a beaucoup d'indications. Mais en fait, il nous manque des étapes. Voilà, parce que les épreuves à l'époque n'ont pas été considérées comme dignes d'être conservées, tout simplement. Et tout à l'heure, vous demandiez pourquoi ce manuscrit-là a disparu des archives Hetzel, mais pourquoi, pour les 500 millions de la Bégome, n'a-t-on que des lacunes ou que des fragments, vous voyez ? De même que de toutes les œuvres de Jules Verne, celle qu'on a le moins bien conservée, c'est 5 semaines en ballon, au niveau du manuscrit, ça on peut l'expliquer à mon avis assez aisément. C'est son premier roman, il n'est pas attentif comme il le sera par la suite à conserver ses manuscrits. Voilà, c'est vrai qu'il y a une part de hasard dans tout ça.
Là, c'est plus un terme technique. Je ne sais pas ce que vous appelez un avant-texte.
Alors, l'avant-texte, c'est toutes les versions diverses et variées qui précèdent le texte imprimé. Voilà, c'est pourquoi la version ancienne ou la mise au net, ou si on avait des épreuves, ce serait des avant-textes. Et c'est pourquoi, pour le manuscrit de l'Étoile du Sud, on peut parler d'un avant-texte, puisque c'est l'une des étapes qui permettent de comparer avec le texte publié que tout le monde connaît. Voilà, alors, les manuscrits de Jules Verne, ils livrent énormément de renseignements pour tout un tas de raisons. Et en plus, on a la chance, en complément des manuscrits, de conserver la correspondance abondante qu'il avait avec Hetzel. Donc, en recoupant les deux, on a une foule d'informations qui ont livré des éléments spectaculaires, et puis d'autres qui le sont moins, mais qui font également avancer la recherche. Alors, l'élément le plus spectaculaire, sans doute à ce jour, livré par les manuscrits, je le cite toujours, nous avons plusieurs versions de l'île mystérieuse, et c'est tant mieux, parce que l'île mystérieuse, c'est le roman parmi les romans, considéré comme un des sommets de l'œuvre, un texte sur lequel Jules Verne a énormément travaillé, puisque, en fait, dès le début de sa production romanesque, il livre à Hetzel un roman qui s'appelle L'oncle Robinson, qui est une sorte d'ébauche de l'île mystérieuse, dont Hetzel lui dit tout le mal qu'il en pense, et je crois qu'Hetzel avait bien raison d'ailleurs, c'était vraiment pas un travail abouti. Et après, on a une version ancienne et une mise au net de l'île mystérieuse. La mise au net n'étant d'ailleurs pas de la main de Jules Verne, puisque Hetzel a fait copier par une copiste, et que Jules Verne a travaillé sur cette version de la copiste pour apporter des corrections. Or, entre la version ancienne et la mise au net, c'est à ce moment-là que se fait, au moment de la mort du capitaine Nemo, la substitution du mot « Dieu et patrie » au mot « indépendance ». Alors évidemment, ça, quand un manuscrit de Jules Verne livre ça, c'est magnifique, hein, parce que Jules Verne voulait... C'est pour ça qu'on peut dire que Jules Verne était un révolutionnaire souterrain. Pour lui, le capitaine Nemo devait mourir en prononçant un seul mot, indépendance. Ce n'est pas du tout qu'Hetzel n'était peut-être pas un révolutionnaire souterrain. Il était peut-être un révolutionnaire souterrain, et puis il a été un révolutionnaire en 1848. Mais la censure n'aurait absolument pas permis que dans une collection pour la jeunesse, en 1874, ce soit ce mot-là. Et on a le droit à Dieu et patrie. Voilà, donc vous voyez, dans les manuscrits de Jules Verne, on a une foule de choses à apprendre. Alors ça, c'est hyper spectaculaire et puis c'est facile à citer, mais il y a énormément de détails. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de travail qui se fait sur les manuscrits de Jules Verne. C'est pas toujours facile parce que les versions anciennes en particulier sont écrites dans une toute petite écriture, difficile à déchiffrer.
Un exemple derrière.
Mais ça, c'est... Ça, oui. C'est groussé.
Ça, ça va encore, oui.
Non, mais c'est groussé.
Oui, oui.
On est d'accord.
Certes,
hein.
Oui.
Bon. Mais par exemple, on disait tout à l'heure, cette histoire, il n'y a pas d'histoire sentimentale dans les romans de Jules Verne. Alors, en fait, il y en a énormément. Hein. Quelqu'un me disait récemment, mais c'est incroyable, je n'avais jamais remarqué, ça se termine toujours par un mariage, et c'est vrai. Sauf que les fins de Jules Verne sont très expéditives, alors on l'oublie. Mais par exemple, un chercheur actuellement qui travaille sur les manuscrits de Jules Verne a travaillé sur la version ancienne du Tour du Monde en 80 jours et il s'est rendu compte que dans la première version du Tour du Monde en 80 jours, l'idylle entre Phileas Fogg et Aouda, qui pour Jules Verne est le seul intérêt du roman, hein, ça faut que tout le monde en soit bien conscient, en fait elle est dans la version ancienne. Mais Hetzel a dû lui demander de sortir ça, quoi, si vous voulez. Donc en fait il y a énormément de choses à apprendre. C'est pourquoi ces manuscrits sont une mine. Et le fait d'avoir à Nantes un corpus aussi complet, évidemment, c'est une chance énorme. et ça nous permet de progresser. Ça nous permet aussi, comme ce soir, d'échanger sur un certain nombre de choses. Donc c'est vraiment une très très grande chance. Voilà, je tenais à le dire.
Mais je pense que vous avez raison. Est-ce qu'on peut imaginer que les deux manuscrits de Grousset, donc on vient d'en retrouver un, sont moins disponibles parce qu'ils ont été, enfin, on n'a pas voulu les garder pour conserver le secret de la copaternité des deux œuvres.
Oui, alors ça c'est possible parce qu'effectivement, il fallait surtout pas révéler ça. Parce que voilà, c'était cette à la fois proximité et distance entre les deux auteurs était quelque chose d'un peu compliqué. Et puis donc effectivement, à partir du moment où c'est passé chez Jules Verne, c'était Jules Verne. Donc comme l'a dit Agnès tout à l'heure, donc effectivement au départ, quand le premier texte est réécrit par Jules Verne, donc Grousset dit j'ai retrouvé la citation. Donc il dit je n'éprouve aucun regret sur la Bégome. Je suis très flatté que Monsieur Jules Verne l'ait adopté. Alors, je pense que c'est adopté hein, et pas adapté. Et les modifications qu'il a faites m'en ont appris plus long sur l'art de succès que 10 ans d'efforts personnels. Voilà comment je vois la chose. Et pourtant, là, il se sent encore un petit peu propriétaire de ce texte parce qu'il dit, il propose dans le même temps à l'éditeur, il voudrait que Hetzel demande à Jules Verne s'il aimerait tirer une pièce de la Bégome. Parce que vous savez qu'il y a un certain nombre de textes de Jules Verne qui ont donné lieu à des pièces qui ont été jouées avec beaucoup de succès. Et donc, à ce moment-là, il dit ben, « Je me chargerai volontiers de la faire, cette pièce-là. » Alors, dans les contrats secrets absolus. Et puis, à un moment donné, le secret, en fait, a failli être révélé. C'est-à-dire que, après le décès de Pierre-Jules Hetzel en mars 86, eh bien, donc, c'est son fils, Louis-Jules Hetzel, qui prend la suite. Alors les relations épistolaires ne sont pas les mêmes. Et puis en fait, à ce moment-là, Pascal Grousset, il voudrait, parce qu'en plus sa carrière d'écrivain se développe avec les vies de collège, avec les romans d'aventure, et il voudrait qu'on remette tout à plat. Et en fait, il se sent quand même un peu dessaisi de ses... Voilà, il était quand même en position de faiblesse hein, au moment où il a vendu ses manuscrits, pas très cher. Et Jules Verne, d'ailleurs, ça c'est important aussi, quand il y a l'épave du Cynthia qui est co-signée, Jules Verne demande à Hetzel que ses droits d'auteur à lui, Jules Verne, soient donnés plutôt à Pascal Grousset. Donc il reconnaît bien que c'est plutôt son œuvre à lui. Les relations en fait entre le fils Hetzel et puis Grousset à un moment donc se détériorent parce que voilà, il voudrait être mieux rémunéré, etc. Et donc à un moment il dit bah, je vais tout révéler quoi. Voilà, il le menace. Bon, puis finalement, ça s'apaise. Donc, les contrats sont revus. Hein, ils se voient. Les contrats sont revus. C'était une espèce d'ultimatum, là. Mais effectivement, si cette révélation avait eu lieu, qu'est-ce qui se serait passé? Là, c'est un très bon sujet, d'ailleurs, de littérature fiction. Peut-être vous pouvez vous en saisir. Là, il y a un beau sujet. Hein.
D'accord. Est-ce que quelqu'un veut poser encore une question dans le public?
Je voulais juste savoir, je ne vois pas trop dans l'ordre de parution des manuscrits, les 500 millions et l'étoile du Sud, où est-ce qu'ils arrivent. Mais est-ce qu'on peut voir dans l'écriture de Jules Verne après une évolution en termes de personnages ou d'écriture une fois qu'il a eu cette expérience-là sur ces deux manuscrits-là, ou est-ce qu'en fait il écrit pareil après que ce qu'il écrivait avant?
C'est difficile à dire. Alors après, il y a quand même des allusions qui sont faites, donc notamment dans 2 ans de vacances. Jules Verne parle de la vie de collège en Angleterre. Après, de même, dans André Lory, on trouve plusieurs personnages qui lisent des Jules Verne, etc. Mais d'une façon plus profonde, est-ce que ça induit quelque chose dans l'écriture ou les thématiques traitées par Jules Verne? C'est très compliqué à analyser. Je ne sais pas répondre comme ça, personnellement. Je ne sais pas.
Oui, je pense que c'est très difficile. Ouais, pour situer où se situent les 500 millions de la Bégome, l'étoile du Sud et l'épave du Cynthia dans l'œuvre de Jules Verne, c'est je pense, après les très grands Jules Verne qu'on a retenus aujourd'hui.
Oui, hein. Les 500 millions de la Bégome, c'est 1878.
Donc il y a les Indes Noires pas loin.
Oui, et puis l'étoile du Sud, 1884.
Et là, il y a Caraban le Têtu
pas
loin.
Donc c'est la deuxième partie de l'œuvre, plutôt, effectivement.
comme je disais tout à l'heure, il y a Lila Ellis qui vient après, qui est, je pense, le,
oui,
la version de la ville utopique de Jules Verne, qui l'avait peut-être pas complètement fait dans les 500 millions de la Bégome, peut-être.
Et puis 1884, ça va coïncider rapidement avec la mort de Hetzel Père, et la mort de Hetzel Père, ça change aussi les conditions de la production pour Jules Verne.
Bien. Ben, je pense qu'on va s'arrêter là. Il est presque 18h. Un dernier mot,
Oui, je voulais quand même dire que lorsque Jules Verne est mort en 1905, c'est Grousset qui lui a rendu le plus bel hommage. Et ça, c'est, à mon avis, c'est très important parce que ça montre à quel point... Grousset a vraiment su trouver les mots pour expliquer... Il a compris d'emblée quelle était l'importance de Jules Verne. Alors je pense que Xavier va pouvoir vous lire au moins quelques extraits de ce texte. Alors il y a juste une phrase que je voudrais prononcer, parce que comme vous savez, Xavier, je l'aime énormément. Grousset, il a écrit à la mort de Jules Verne que Jules Verne, il avait fait penser, rêver et marcher l'humanité. Et vraiment, je pense qu'on n'a jamais mieux dit depuis.
C'est vrai. Donc, Xavier, prenez la voix de Pascal Grousset.
Voilà un petit extrait de cet hommage. Jules Verne, qui s'est éteint hier à l'âge de 77 ans, fut quelque chose de plus et de mieux que ne l'imagine peut-être la majorité de ses lecteurs. Un des écrivains les plus originaux, les plus brillamment doués, les plus noblement français, ça c'était son côté patriote, de ce temps. Et aussi un des plus mondiaux, un de ceux qui ont su parler à l'univers le serment qu'il attendait, un des hommes rares qui ont le privilège de représenter l'espèce au grand parlement humain et d'adresser au monde sublunaire un message unanimement compris. Ses ouvrages forment aujourd'hui, ou formeront demain, un ensemble de 90 volumes qui n'ont d'analogue dans aucune littérature. D'autres, avant lui, depuis Swift jusqu'à Edgar Poe, ont introduit la science dans le roman et l'ont utilisé pour la satire ou l'agrément de leur cuisine. Personne, avant lui, n'en avait fait le substratum systématique et durable d'une œuvre monumentale consacrée à l'étude directe de la Terre et de ses annexes, des programmes industriels de l'humanité, des résultats acquis et des conquêtes possibles.
Voilà, et puis, c'est en fait un texte très long. Ouais, il est très très beau, hein, je vous conseille. Merci beaucoup à vous.